Bonsoir, deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse d'aujourd'hui. D'abord, présentation mercredi dernier par l'informateur Charlemagne de Simba devant la presse des conclusions du rapport des consultations. Ensuite, l'Union africaine a lancé samedi dernier à Djouba, capitale du Sud-Soudan, une force militaire de 5000 hommes pour traquer et intercepter le chef rebelle ougandais de la LRA, Joseph Kony. Trois confrères participent à cette émission. Néron Kata, directeur de la radio Vuvu Kieto, émettant à Mbanzangungu dans la province du Bas-Congo. Néron Kata, bonsoir. Giscard Toussema, directeur général de Canal Future Télévision basé à Kinshasa. Bonsoir Giscard Toussema.
Bonsoir Alain.
Israël Moutala, journaliste à Géopolis, magazine économique des activités extractives. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir Alain.
Voilà, Néron Kata, une fois de plus, bonsoir parce qu'on n'a pas bien entendu votre salutation.
Merci bien, bonsoir à tout le monde.
Bienvenue à tous dans votre émission. Présentation mercredi dernier par l'informateur Charlemagne de Simba devant la presse des conclusions du rapport des consultations. L'Union africaine a lancé samedi dernier à Djouba, capitale du Sud-Soudan, une force militaire de 5000 hommes pour traquer et intercepter le chef rebelle ougandais de la LRA, Joseph Kony. Avant d'entrer dans le vif, voyons d'abord comment la presse chinoise a traité ce sujet dans cette revue de presse présentée par Samuel Kachak.
Bonsoir. Formation du futur gouvernement, l'informateur Mwando Simba pense qu'il n'est pas envisageable de nommer un premier ministre de l'opposition, titre l'avenir. Pour ce quotidien, Charles Mwando Simba a estimé que l'ouverture de Joseph Kabila ne veut pas dire qu'il s'agit d'une cohabitation. Abondant dans le même sens, le potentiel note après avoir remis mardi les conclusions de son rapport au président de la République, le banc de l'opposition se vide. Selon ce journal, plusieurs partis de l'opposition vont adhérer à la nouvelle majorité parlementaire. Toujours à ce propos, la prospérité nous révèle les secrets de consultation de Mwando Simba en signant « Mwando Simba présente trois tendances à Kabila ». D'après la consoeur, l'informateur a été clair. Il ne s'agit pas d'un gouvernement de cohabitation, il s'agit bel et bien d'une majorité autour du président élu. La prospérité a précisé que l'élu de Moba a déclaré qu'il n'y aura pas un dialogue où tout sera réglé mis en cause, mais plutôt un dialogue permanent qui doit exister au sein de la classe politique afin que règne un climat de paix dans le pays. Tout compte fait, l'observateur rapporte que Charles Mwando Simba a rempli sa mission en remettant les conclusions de son rapport au président de la République. Toujours au chapitre du processus électoral, le potentiel a rapporté la visite en RDT de Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères. Notre confrère a constaté que ce dernier s'est vu refuser une rencontre avec l'UDPS. Selon l'UDPS, cette visite est purement et simplement une provocation de la part du chef de la diplomatie belge. L'observateur qui ne voit pas en cette visite une provocation signe Didier Reynders en visite à Kinshasa, la Belgique veut relancer l'aide au développement en faveur de la RDC. Terminons cette revue de presse avec le potentiel qui annonce que l'Union africaine a inauguré samedi 24 mars dernier à Djouba, capitale du Sud-Soudan, une force militaire pour traquer et intercepter le chef rebelle ougandais Joseph Kony, recherché par la justice internationale pour ses nombreuses exactions contre des enfants d'Afrique centrale. Selon ce journal, cette force est composée de 5000 hommes venus de l'Ouganda, du Sud-Soudan, de la RDC et de la République centrafricaine. Elle a pour mission ultime de barrer la route à Joseph Kony et à la LRA.
Merci Samuel Kachak, Giscard Kousséma, directeur général de Canal Future Télévision basée à Kinshasa. Parmi les autres sujets d'actualité, il y a la publication du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne sur les élections présidentielles et législatives de novembre 2011.
Effectivement, c'est un sujet qui préoccupe également toute la presse et même la sphère politique nationale. Mais au-delà de ces rapports, il y a également, un peu loin de nous, mais en Afrique tout de même, l'alternance au Sénégal. un événement panafricain lorsqu'on sait que ce genre d'alternance n'arrive pas tous les jours.
Et le coup d'État au Mali.
Et le coup d'État au Mali, effectivement. Et donc, voilà, c'est autant de sujets qui préoccupent encore la sphère nationale ici. Alors, donc, ce sont autant de sujets qui sont d'actualité et qui peuvent être débattus et qui occupent l'ensemble des colonnes de la presse.
Avant de donner la parole à Israël Moutala, il faut signaler que le canal Future Télévision n'y est pas encore.
Effectivement, cela fait plus de 5 mois, malheureusement. C'est un record national. Jamais dans l'histoire de ce pays, un média a été fermé pendant plus de 5 mois. Dieu seul sait combien de mois il nous reste encore. Pour avoir publié des résultats affichés dans 2 bureaux de vote sur les 60 000 qui avaient à travers le pays, pour avoir diffusé des reportages sur les irrégularités que le monde entier reconnaît maintenant, voilà que Canal Future, ma télévision, est réduit au silence. Et cela arrive au moment où, non loin de nous, on a vu comment au Sénégal, les médias eux-mêmes ont pris le processus en cours. Et grâce aux reportages, aux tendances données par les médias, que le président Ouad a reconnu sa défaite. Mais voilà, ici, chez nous, on est encore dans ce genre de situation. C'est malheureux. En 5 mois, nous avons fait ce que nous pouvions. Nous avons démontré ce que nous pouvions faire. Nous avons rencontré ce que nous pouvions rencontrer. Malheureusement, apparemment, aucune instance n'est en mesure de prendre le courage et de lever la mesure. Voilà un peu le côté mystérieux de la force analytique.
Israël Moutala, journaliste géopolitique, magazine économique des activités extractives. Il y a également l'Assemblée nationale qui a adopté hier l'article 22 de son règlement intérieur relatif à la participation de l'opposition et de la majorité au bureau de cette chambre tel que proposé par la Cour suprême de justice et qui a fait l'objet d'un débat houleux.
Oui, on pouvait s'y attendre parce que cette loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale est une loi importante qui allait consacrer une fois de plus la participation de l'opposition au bureau et dans les commissions de cette institution. Mais en fait, le plus grand problème était de savoir dans quelle mesure cette participation de l'opposition allait se situer dans le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, c'est vrai, c'est l'article 22, c'est un article qu'on a qualifié de l'article de l'ouverture. C'est un article qui va dans le sens de décrister un peu la crise politique à cause des irrégularités systématiques et substantielles constatées dans les procès électoraux. Cet article consacrait effectivement la participation de l'opposition dans le bureau de l'Assemblée nationale. La Cour suprême avait estimé que cette loi était plus ou moins restrictive parce que elle empêchait, d'une certaine manière, et certaines personnalités qui n'appartiennent ni à l'opposition ni à la majorité, de se voir, accéder à des fonctions au sein du bureau, ce qui est contraire à la Constitution. Parce que la Constitution dit que tous les Congolais, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs opinions politiques, sont égaux en droit et en devoir. Et donc, ça a été plutôt corrigé par l'Assemblée nationale. Et donc, ça pourra, dans une certaine mesure, permettre à l'opposition de participer au bureau.
Merci Israël Moutala, Néron Kata, directeur de la radio Vuvuzela et étant en Bandangongo dans la province du Bas-Congo. Quelle est l'actualité en Bandangongo?
L'actualité actuellement en Bandangongo, sinon dans toute la province du Bas-Congo, c'est plutôt l'élection du gouverneur. Après la démission du gouverneur Simon Floribert Mbachi Bacha et le vice-gouverneur de Yonkoussou qui fait l'intérim. Aujourd'hui, les tractations dans le monde politique, c'est l'élection du futur gouverneur parce que, comme vous le savez bien, le président de la République a écrit à la CENI pour qu'il organise des élections du gouverneur. Et dans tous les états-majors des partis politiques de la province, nous voyons les gens bougent pour briguer le mandat, donc terminer c'est le mandat de Mbachi, sinon être gouverneur. Et entre autres, il y a des MLI de Mbazangungu, l'honorable Atuma Toubouana, actuel rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale. Il s'est ligué avec le président de l'Assemblée provinciale, c'est après les informations à notre possession. Et le président de l'Assemblée voudrait être bien gouverneur, il est candidat. Et comme vice-gouverneur, candidat, c'est l'honorable Atou Matouana, le rapporteur adjoint de l'Assemblée et élu de la circonscription de Mbazangungu. Et ce sont des tractations, ça et là, nous voyons ces derniers. Les politiciens, en l'occurrence l'honorable Atou, descendre à sa base pour demander l'appui d'une façon ou d'une autre.
Merci. Merci, Néron Kata. Abordons à présent notre premier terme de ce soir. Présentation à la presse mercredi dernier à Kinshasa du bilan des consultations que vient d'effectuer l'informateur. Ceci intervient après la remise du rapport de ce travail au chef de l'État mardi dernier. Charles Mwando Simba a expliqué à la presse qu'à l'issue des concertations, les approches ne sont pas les mêmes entre la majorité présidentielle et l'opposition sur notamment la composition du prochain gouvernement. L'informateur a aussi ajouté que les consultations ont été élargies aux technocrates et autres personnalités capables de concourir à la réalisation du projet du président de la République. Reportage à Saint-Vic Datayoro.
Selon Charles Mwando Simba, certains regroupements politiques ont décidé de signer officiellement un acte d'adhésion à la majorité parlementaire qui se consolide à l'Assemblée nationale. Il ressort également de ces consultations que la famille politique du chef de l'État et ses alliés se disent capables de gouverner la RDC avec l'actuelle majorité parlementaire sans opposition. Mais il laisse la latitude au président de la République de décider sur l'ouverture ou non de son gouvernement à l'opposition. L'informateur rapporte que trois tendances ont été observées du côté de l'opposition. La première est favorable à un compromis autour du programme du gouvernement. La deuxième demande au contraire de concertation pour mettre en place un gouvernement d'union nationale dirigé par un premier ministre issu de l'opposition. L'organisation d'un dialogue en vue de mettre en place de nouvelles institutions est enfin la dernière tendance de l'opposition mentionnée dans un mémorandum. Mais Mwando Simba, lui, rejette l'idée de confier la primature aux opposants.
Il ne peut donc pas être envisageable de nommer un premier ministre de l'opposition. Ce serait donc renier l'existence de la majorité.
Par ailleurs, Mwando Simba confirme qu'il ne se limite qu'à sa mission d'informateur.
Merci à Skandik Datayoro, Giscard Koussema. Comment vous analysez le travail abattu par l'informateur?
Ok, merci pour la question. Je ne suis pas politique. Je vais donner une analyse d'un communicateur et d'un chercheur en communication également. D'abord, je vous fais remarquer, Alain, que l'institution informateur n'est pas une institution permanente. Il s'agit d'une institution qui n'arrive pas d'abord tous les jours et puis qui a une mission éminemment politique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une surinformation et qui vient finalement de jeter un peu de confusion au sein de l'opinion. La mission, ce n'est pas à moi ici de rappeler la mission qui avait été confiée à l'informateur. Il est l'informateur du chef de l'État, il n'est pas l'informateur de la population ou de la classe politique. Et donc, la mission, les premiers résultats de cette mission devaient revenir au chef de l'État. Et n'oublions pas qu'il s'agit d'une page qui est en train de tourner, en fait. C'est le passage d'une législature à une autre. On est dans des tractations, on est dans tout ça. Et je crois qu'il n'était pas de bon aloi pour l'honorable Mwando Simba de pouvoir informer les gens. J'ai même vu un journal de l'informateur tous les jours, de voir passer des personnalités, et ce qui laisse croire que finalement toutes ces personnes qui sont fait consulter font partie de la majorité présidentielle. Donc je pense qu'il y a d'abord une erreur de stratégie, ça c'est une lecture d'un communicateur. Pour une question éminemment politique, on ne devrait pas proscrire de la sorte, ce sont des tractations. Il aurait fallu un peu plus de diplomatie et faire réserver ce rapport au chef de l'État. Il n'est pas non plus le porte-parole du chef de l'État. Le président de la République lui a donné une mission précise. Si lui, en tant qu'informateur, a des avis à émettre ou une contribution, c'est au président de la République, qui peut ou ne pas prendre en compte. Mais lorsque tous les jours il fait défiler des gens, et puis on les fait passer à la télévision, et puis c'est lui-même qui tient un point de presse, il fixe déjà dès le départ, ça c'est un peu mettre les chefs de l'État en difficulté, lorsque au sein même de cette même majorité, il y en a qui commencent même à douter de la bonne foi du président de la République qui aura annoncé une ouverture de banque. Voilà la première lecture que j'ai à faire sur le plan communicationnel.
N'y avait-il pas un souci de transparence et de communication, d'information de sa part?
Justement, c'est le paradoxe de notre pays. Là où on a besoin d'informations sur les silences radio, et là où on n'a pas besoin de beaucoup d'informations, on fait du bruit pour rien. N'oublions pas, la mission est d'un mois, c'est une mission de prestation politique, et une surinformation qui vient finalement de jeter de la confusion, alors que les prérogatives de l'informateur sont connues. Si au départ on sait qu'il est allé pour une majorité parlementaire lui-même, on pouvait comprendre qu'il explique le sens d'avoir voulu, d'avoir consulté d'autres personnes qui en principe ne sont même pas parties. Parce qu'en fait, la majorité dont il est question ici, la majorité parlementaire dans son travail de vie, c'est limité au niveau de députés pour confirmer la majorité. Bon, bien entendu, pour instruction du chef de l'État, il est allé au-delà, mais est-ce qu'il fallait jeter sa sacrée de frustration? Vous avez vu les premières réactions qui sont venues de la part de l'opposition, et même au sein de l'opinion, c'est un peu de la confusion, et finalement, on s'est dit, avant l'informateur égale après l'informateur, et donc, c'est un travail qui n'aura servi à rien lorsqu'on revient à la case départ avec le discours du départ.
Ismaël Moussala, est-ce que vous partagez l'avis de Giscard Coutema d'après laquelle l'informateur a opté pour la mauvaise approche?
Bon, j'ai pas analysé le travail de l'informateur sur l'angle de Giscard et donc je ne m'avancerai pas sur ce terrain. Moi, je vais sur le terrain strictement politique de sa mission. Dans ses conclusions notamment, il a dit ceci, qu'il y a deux approches différentes selon qu'on est de l'opposition ou de la majorité. Et bon, cette conclusion de l'informateur me paraît logique, parce que pour l'opposition, il y a crise politique, et pour la majorité, il n'y a pas de crise politique. Donc, partant déjà de ce constat, de ce diagnostic politique congolais différent, selon qu'on est de la majorité ou selon qu'on est de l'opposition, on ne pouvait aboutir qu'à des approches différentes. Aujourd'hui encore, le rapport de l'Union européenne sur les élections sont sans équivoque. Les élections présidentielles et législatives n'ont pas été crédibles. Les élections sont un moment important dans une démocratie pour renouveler la classe politique. Quand on dit que ces élections sur la foi du rapport de l'Union européenne ne sont pas crédibles, il y a inévitablement crise politique. N'est pas l'admettre, c'est de la mauvaise foi, n'est pas de l'admettre, c'est de la politique de l'autruche. Partant de cela maintenant, que fallait-il faire? Moi je pense que même la mission de l'informateur, justement, d'identifier la majorité. En fait, la majorité n'était même pas nécessaire de l'identifier, et identifier est identifiable. Ça veut dire que même si Kabila n'avait pas nommé un informateur, s'il avait nommé un premier ministre, celui-là aura automatiquement le soutien des gens qui se reconnaissent dans les dérives de Kabila. Donc, pour des raisons de formalité, effectivement, on a identifié une certaine majorité. Au-delà, on a consulté certaines personnalités de la société civile et de l'opposition pour essayer de dégager un consensus autour du profil du futur Premier ministre. Oui. Évidemment, justement, pour la majorité qui a soutenu Kabila, ils veulent absolument que ce poste leur revienne. C'est aussi leur droit. Pour l'opposition, ils estiment qu'il faudrait absolument que, avant de nommer le Premier ministre, qu'il y ait un large dialogue, un large consensus dans la classe politique pour dégager, pour mettre fin à la crise politique, qui ne va pas se résumer avec la nomination d'un premier ministre. Ces deux approches-là ont été, fondamentalement exposées à moins de Sima, et il appartient au chef de l'État justement d'en tirer toutes les conséquences.
Il y a également trois tendances qui ressortent du rapport de Charles Mando Simba. La première est favorable à un compromis entre les formations politiques de l'opposition et celles de la majorité autour de l'élaboration du programme du futur gouvernement. La deuxième est favorable à l'organisation des concertations pour mettre en place un gouvernement d'union nationale dirigé par un premier ministre de l'opposition. La troisième tendance est favorable à l'organisation d'un dialogue en vue de mettre en place de nouvelles institutions. Israël, est-il possible de concilier ces trois points de vue qui semblent visiblement très, très différents?
Oui, il est possible. Mais la clé, je l'ai toujours dit ici, la clé repose entre les mains de Kabila et de Tshisekedi. Ne nous voilons pas la face. Il y a deux forces politiques majeures dans ce pays. L'une, force sociopolitique majeure, l'une est incarnée par Kabila et l'autre est incarnée par Tshisekedi. Toute solution qui se ferait en dehors de Tshisekedi, il y a une partie importante des Congolais et des Congolaises qui se sentiront exclus de la gouvernance, les frustrations vont demeurer et vont fragiliser la cohésion nationale. Ce dont nous avons besoin, c'est de renforcer la cohésion et l'unité nationale. Donc cette cohésion et cette unité nationale passent par l'implication nécessairement de Étienne Tshisekedi et de l'UDPS, mais subsidiairement aussi de Vital Kamerhe, qui s'est révélé aussi comme la troisième force du pays. Donc la clé, substantiellement, repose sur cette personnalité-là. Mais le problème est de savoir, est-ce que Tshisekedi, en échange de la reconnaissance de l'élection de Kabila, qu'il ne reconnaît pas toujours, peut-il accepter justement de s'impliquer dans un schéma où il a la queue de la primature? C'est ça toute la question du partage du pouvoir, et enfin, pour baliser le chemin des élections provinciales, locales et législatives. Donc la question est d'abord fondamentalement politique, avant de se mettre d'accord sur un quelconque programme.
Mais en cas ça, il y a certains partis de l'opposition qui dénoncent de la part de l'informateur une démarche tendant à débaucher certains d'entre eux. On a même vu, comme l'a dit Giscard, certains partis de l'opposition se déclarer favorables à faire partie de la nouvelle majorité, par exemple.
Oui, moi je voulais d'abord revenir à ce que Giscard avait dit. Je pense que l'informateur, il est allé au-delà de son rôle. Il est un formateur et son rôle est de dégager, par exemple, la majorité présidentielle au Parlement. Mais nous avons vu qu'en dehors de ça, comme l'a dit Giscard, que l'informateur avait même toute une tranche à la télé où chaque fois il sortait pour nous donner des informations. Et nous pensons que c'est au président de la République qui revenait d'abord la primaire de l'information. Non, car cela ne tient par rapport à ces politiciens de l'opposition qui y ont donné la tendance de faire membres du gouvernement. Mais moi, je voulais plutôt dire, nous connaissons bien nos opposants dans notre pays ici. Il y en a qui se disent opposants, tout simplement parce que peut-être à ce moment-là, ils ne se retrouvent pas. Dès qu'ils sont derrière un gâteau ou ils ont retrouvé un gâteau, finalement, l'étiquette opposition tombe. Donc, ça ne nous surprend pas trop, mais tout simplement, nous voudrons dire que ce qui va ressortir de là, il faudra que ce soit pour l'intérêt de la population et que, comme le président de la République avait dit que cette année, il voudrait vraiment, surtout ce quinquennat, il voudrait vraiment que le social soit en première position. Je suppose que les gens qu'on pourra mettre dans ces gouvernements, si jamais ils sont déjà dégagés, que ce soit des gens qui ont réellement un souci sur ce social qu'attend le peuple congolais.
Néron Kata, Ismaël Moussala a tout à l'heure souligné que la clé à cette crise que connaît la RDC se trouverait entre les mains d'Étienne Tshisekedi et de Joseph Kabila. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je ne partage pas trop cet avis parce que, comme lui-même l'a dit, M. Tshisekedi ne reconnaît toujours pas ces élections, sinon l'élection du président Joseph Kabila. Est-ce maintenant on ne va pas créer une autre crise en lui demandant, par exemple, en créant ce dialogue qu'on aimerait qu'il soit permanent ou qu'il puisse avoir avec le président Kabila? Est-ce que va-t-il accepter? Et s'il n'accepte pas, nous attendrons jusqu'à quand, sinon la population va attendre jusqu'à quand, le gouvernement, pour que les affaires démarrent réellement dans ces pays. Moi, je crois qu'on ouvre les dialogues, mais entre-temps, il faudra qu'on voit que faire pour que finalement le pays démarre.
Voilà, je vais vous demander des brèves réactions avant que l'on aborde le deuxième thème de ce soir. Giscard Kouféma, plusieurs observateurs évoquent la nécessité d'un dialogue, mais sur quoi devrait déboucher ce dialogue?
Mais il devrait déboucher sur le renforcement de la crédibilité de nos institutions mises à mal là, aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure du tableau peint par l'informateur sur l'opposition. Ok, mais personne ne veut parler du tableau qu'il n'a pas non plus lui-même peint sur la majorité. Au niveau de la majorité, on peut également faire un même tableau similaire. Il y a aussi des tendances. La première tendance, c'est celle des classiques qui pensent que oui, nous avons gagné, nous avons la majorité, il n'y a pas de crise, tout va bien, on gouverne. Et une autre tendance pilotée, je le pense, par le chef de l'État lui-même, qui reconnaît qu'il y a quand même des irrégularités et que pour cela, il faudrait qu'on puisse également tendre à la main question de créer la cohésion nationale. Alors, vous voyez que le problème n'est pas seulement au niveau de la majorité de l'opposition, mais aussi au niveau de la majorité. Alors, aujourd'hui, tout le monde, est-ce qu'il faut encore entrer dans cette guerre des mots pour voir crise, pas crise, malaise ou pas? Il y en a qui veulent même qu'on ne parle ni de crise ni de malaise, mais contentieux électoral. Bon, tout ça là rime à quoi? Le problème, c'est que aujourd'hui, plus de 100 jours après, moi j'ai parlé de 5 mois, et c'est vérifiable, 5 mois après la tenue des élections, on ne s'est pas démarré. 5 mois bientôt, ce sera une année, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose. Vous pouvez trouver les termes que vous pouvez donner, mais au moins, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut prendre le taureau par les cornes et pour pouvoir aller de l'avant. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, toutes les missions internationales et même nationales, tous les interlocuteurs qui s'occupent de la qui suivent la politique congolaise arrivent à la même conclusion, à la même recommandation, qu'il faut un dialogue. Il faut faire le diagnostic, faire l'état des lieux. Oui, il y a irrégularité, mais de quelle nature? Parce que personne ne veut aller au fond. Mais s'il y a irrégularité, c'est le fait de qui? Et pour qu'on fasse à quel niveau? Et pour qu'on puisse anticiper le tir? Mais il y en a qui ont tellement peur du partage du pouvoir, qui pensent que non, c'est le partage du gâteau, c'est ça le terme. Et s'il y a dialogue, donc ça doit aboutir par un partage des responsabilités. Il y a des critiques qui ne veulent vraiment pas qu'on en arrive là. Alors, il ne faudrait pas qu'on puisse tomber dans leur piège.
Et Fael Moussala, dialoguer, oui, mais on a suivi plusieurs réactions de part et d'autre, la majorité opposition. Chaque camp a visiblement des préalables qui sont apparemment inconciliables.
Oui, je pense que il faudrait que ce soit Étienne Tshisekedi, que ce soit Joseph Kabila, que les deux puissent mettre de l'eau dans leur vin. Parce que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, seul l'intérêt de la nation doit importer, doit compter. Moi, je pense qu'il y a moyen de trouver une solution. Parce qu'on va dialoguer, sur quoi va-t-on dialoguer? Évidemment, il s'agit de politique. Évidemment, il s'agit de la gestion de l'État. Il y a des gens qui estiment qu'ils vont mieux gérer que d'autres et tout ça. Donc, la question du partage du pouvoir est une question qui va s'imposer. Dès lors que nous partons du constat selon lequel les résultats des élections générales du 28 novembre dernier n'ont pas été crédibles. Donc, la conséquence logique à tirer, c'est que toutes les institutions issues de ces élections ne le sont pas aussi. Donc, la crise de légitimité est réelle, la crise de légitimité est parfaitement visible et perceptible. Dans ces conditions, il faut dialogue, il faut que les principaux acteurs puissent dialoguer, dialoguer autour de quoi? Moi, je pense que pour l'UDPS, le premier, par exemple, le premier, doit se faire harakiri en renonçant, par exemple, au fauteuil présidentiel. Cet échange de l'UDPS, par exemple, qu'est-ce que l'UDPS aura en échange s'il reconnaît la légitimité, la légalité, par exemple, de Joseph Kabila? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a la question de l'indemnisation, par exemple, de toutes les personnes qui sont mortes. L'UDPS a vu beaucoup de ses membres fauchés, tués. Toutes ces personnes là-bas, c'est le sang qui a été versé. Donc on peut trouver un compromis pour que toutes ces personnes soient récompensées, qu'il y ait une indemnisation. Et il y a d'autres questions, par exemple. L'Assemblée nationale n'est pas du tout représentative. Donc, si on vous dit que dans la ville de Kinshasa, par exemple, la majorité présidentielle est, comment dirais-je, est supérieure à l'opposition, c'est le monde à l'envers. Donc, ça ne peut pas tromper personne. Donc, le reflet même, le rapport de force au sein de l'Assemblée nationale, pose problème. Ce sont autant de questions de discussion.
Merci.
La question, maintenant, je m'en termine par là. La question, par exemple, de la CENI. La question de la CENI. Il est clair que la CENI ne peut pas continuer à gérer le processus actuel. Donc, il y a presque une unanimité de vue sur les gars entre la majorité et le pouvoir. Donc, il faudrait faire, comment dire, remplacer le leadership de la CENI actuelle pour un nouveau leadership qui sera issu aussi d'un compromis politique entre les principales forces politiques du moment. Et enfin, je pense, la question aussi des Congolais de la diaspora doit être mise au cœur de négociations politiques. Comment on va faire participer ces gens là-bas à la gestion du pays et tout ça. Autant de questions qui méritent d'être discutées.
Merci. Néron Kata, pourquoi la classe politique congolaise semble avoir peur d'accepter le fait que le dialogue pourrait donner lieu au partage ou à la redistribution des cartes sur les sujets politiques congolais?
Oui, moi je me pose la question si c'est réellement qu'ils ont peur, ou plutôt la grande question c'est sur quoi on va dialoguer. Cette question-là, c'est parce que nous savons que l'opposition, sinon M. Tshisekedi, lui ne reconnaît pas la légitimité par exemple de ces élections. Il ne reconnaît pas le président Joseph Kabila comme président élu. Bon, si on dialogue, c'est pour faire quoi? Donner raison à Tshisekedi. Et demander par exemple à Joseph Kabila de quitter, c'est ça les grandes questions. Donc, on se pose la question, on va dialoguer sur quoi? C'est comme ça, je crois, que c'est qui fait que, qu'il puisse lambiner où chacun n'est pas assez fort, n'est pas assez disponible au dialogue. Mais plutôt, ce qui est encore intéressant là, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est par rapport à ces institutions d'appui à la démocratie, la CENI par exemple, parce qu'à côté de ça, nous allons parler aussi du CESAC, la CENI qui est censée organiser les élections, il doit avoir la confiance quand même de la population. Nous qui habitons dans les milieux ruraux aujourd'hui, il y a par exemple de nos mamans, de nos paysans, bref, quand vous leur parlez des élections aujourd'hui, ils vous trouvent comme un petit fou, excusez-moi. C'est-à-dire pour eux, ils ne voient pas, ils ne voient plus cette CENI-là ou ce bureau organiser des élections et que, qui vont être crédibles. Donc, nous voulons dire qu'il faudra peut-être qu'on discute, qu'il y dialogue sur la légitimité de ces institutions d'appui
à la démocratie.
Mais entre-temps, maintenant, peut-être, ils doivent aussi primer, comme on le dit toujours, les peuples d'abord.
Merci.
D'abord, les peuples, donc peut-être dialoguer. S'ils peuvent se partager les gâteaux, comme ils le disent souvent, tant mieux, mais pour nous, c'est dans l'intérêt de la population.
Merci, Néron Kata. Abordons notre deuxième thème de ce soir. L'Union africaine a lancé, samedi 24 mars dernier, à Djouba, capitale du Sud-Soudan, une force militaire pour traquer et intercepter le chef rebelle ougandais Joseph Kony. Celui-ci est recherché par la justice internationale pour ses nombreuses exactions contre des enfants d'Afrique centrale. Samuel Sechak pour le reportage.
Composée de 5000 hommes, cette force militaire africaine qui a pour mission ultime de barrer la route à Joseph Kony et à la LRA est placée sous le commandement de l'Ouganda. Elle est composée de soldats ougandais, sud-soudanais, congolais et centrafricains. Cette force sera soutenue par les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et le Conseil de sécurité des Nations unies. Selon Francisco Madeira, envoyé spécial de l'Union africaine pour la lutte contre la LRA, cette force sera basée à Yambio, au Sud-Soudan, près de la frontière avec la RDC. L'émissaire de l'Union africaine a précisé que la mission de cette force durera jusqu'à ce que Joseph Kony se rende, soit capturé ou neutralisé. De son côté, le représentant spécial des Nations unies pour l'Afrique centrale, Abou Moussa, estime que Joseph Kony dirigerait une armée de rebelles ougandais composée d'environ 200 à 700 hommes. Il serait divisé en petits groupes de 10 ou 20 hommes dispersés entre la République démocratique du Congo, le Sud-Soudan et la République centrafricaine, selon le gouvernement ougandais.
Merci Samuel Kachak. Retenez que la fac du chef de la LRA a connu un regain de publicité depuis le lancement au début du mois d'une grande campagne sur Internet sous la forme d'une vidéo intitulée « CONI 2012 » vue sur YouTube par des dizaines de millions de personnes dans le monde exigeant son arrestation d'ici la fin de l'année. Israël Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives. Plusieurs observateurs pensent que l'Union africaine vient de se réveiller en retard. Quelle est votre analyse?
Moi, je pense que je ne le penserai jamais, mais ce n'est pas vraiment l'Union africaine qui est la base de cette traque. Je pense que la traque de Joseph Kony est un effet national de souveraineté sur notre traque territoriale. Donc, la souveraineté que nous avons, on ne l'est pas totalement parce que nous ne maîtrisons pas notre espace. Mais c'est la volonté et le combat d'un homme, c'est Barack Obama, depuis qu'il est à la Maison Blanche, qui était juré d'avoir la tête de Joseph Kony, parce que ses atrocités l'ont profondément révolté. Et ne peuvent que révolter tout citoyen du monde normal, parce que Joseph Kony a commis des crimes graves contre l'humanité. Il a endeuillé nos compatriotes de la province orientale pendant des années et des années. Donc je pense qu'il est temps quand même qu'on mette fin à l'aventure d'un homme qui n'est pas plus spécial que ça. Il n'a qu'à peine quelques milliers d'hommes de troupes, je crois 3 000, très mal organisé comme il se fait. Donc s'il y a une volonté de moyens logistiques conséquents, on va mettre fin à cet homme. Donc moi, c'est un coup de chapeau à l'Union africaine. Non, c'est la main des États-Unis qui va mettre les moyens logistiques et les moyens financiers pour mettre fin à cette aventure de Kony dans notre pays qui n'a que
Néron Kata, vous êtes le directeur de la radio Vuvu Kieto et émettant à Mbandangungu dans la province du Bas-Congo. L'aventure de Joseph Kony n'a que trop duré. Certains observateurs, Néron Kata, pensent que Joseph Kony bénéficierait de certaines complicités. Est-ce votre point de vue?
Oui, moi je me pose toujours la question de savoir jusqu'à quand les guerres en Afrique et jusqu'à la guerre en République démocratique du Congo. Joseph Kony aujourd'hui, moi, quand on les traque, quand il y a une campagne comme ça qui se fait, je suis tout à fait d'accord, je suis content, mais je voudrais réagir d'abord par rapport à l'Union africaine. Je me pose toujours la question si cette institution existe. Excusez-moi, ou si elle existe, est-ce qu'elle est capable de prendre une décision qui va être exécutée vraiment et qui portera des faits? Heureusement pour nous qu'on apprend qu'il y a les États-Unis, c'est plutôt peut-être ça qui nous rassure. Mais l'Union africaine en soi, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas contre, mais je ne crois pas trop à l'Union africaine. Mais Joseph Kony, par rapport à ce que nous, on se dit toujours, tous ceux qui font des guerres, par exemple à l'est de notre pays, est-ce qu'ils font ces guerres-là sans complicité, sans une main noire, par exemple, de l'Occident? C'est ça la question qu'on se pose. On se pose même aussi la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de nos dirigeants ici qui sont derrière ça. Parce que, à côté de ça, il y a par exemple nos forces démocratiques, nos forces armées qui doivent attaquer, qui doivent être là, mais parfois nous savons que les traitements infligés à notre forces armées ne sont toujours pas ces traitements-là. Et parfois, qui ne sont pas, c'est comme ça, qui n'arrivent pas à être peut-être à la hauteur de leur mission. Donc, moi je pense, ça c'est vrai, il faudra qu'on quand on attaque Joseph Kony, il faudra qu'on voit quelle est la main aussi qui est en dessous là-bas, qui soutient ce monsieur pour qu'on attaque et la cause et ses effets finalement, je vous le dis.
Voilà, j'espère que c'est moi. Vous êtes le directeur général de Canal Future Télévision basé à Kinshasa. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'harmonisation des opérations et des forces. Il y a FRICOM, il y a des opérations MONUSCO et FARDC. En plus de cette force, comment tout cela va se passer?
Effectivement, c'est notre question, c'est notre problème plutôt dans cette question, dans cette épineuse question que je fais connue. Encore une fois, ce sont les aspects communicationnels qui m'intéressent tout d'abord. Comment imaginez-vous des armées venues de plusieurs pays dans un autre, notamment en République démocratique du Congo, et sans que l'on ne soit informé? C'est par la presse, c'est par les médias qu'on a appris qu'il s'est passé quelque chose à Douma et une guerre qui va être lancée à partir de là, mais qui, en principe, vient va avoir lieu sur le territoire congolais, comme c'est l'église.
Dans la région, plus ou moins.
Dans la région, plus ou moins, mais on sait que Kony a été au moins et mieux implanté en République démocratique du Congo. Du reste, c'est devenu l'Eldorado de tous les 100 points de loi qui ne peuvent être enquêtés ailleurs. Joseph Kony n'est pas aujourd'hui le seul seigneur de guerre attendu à la CPI. Il y en a d'autres. Et c'est des groupes innombrables qui sont toujours en République démocratique du Congo. Et si Joseph Kony aujourd'hui est sous les trousses, ce n'est pas parce qu'on veut faire plaisir à la République démocratique du Congo, mais c'est d'abord on veut enlever ces dangers de l'Ouganda, ça vous le savez au moins. C'est la demande de l'Ouganda, c'est l'Ouganda qui fait cette question, mais quand est-ce que cela pourrait se faire, pourrait également être fait pour et en faveur de la population congolaise? Où on a également besoin de tous ces seigneurs de guerre qui ont investi l'Est, les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, soient mis hors d'état de nuire. Donc aujourd'hui, il y a un problème, les effets collatéraux seront sur la terre congolaise. Mais aucune question là-dessus, on ne sait pas comment ça va se passer, beaucoup d'interrogations. La population qui va se réveiller un matin et puis voit de différents uniformes défiler au front et tout ça. Donc voilà un peu de problèmes qui peuvent subvenir à la suite de cette opération, encore qu'il faille qu'on ait toutes les garanties que Joseph Kony sera bel et bien arrêté, et s'il n'est pas arrêté, c'est encore une fois la population congolaise principalement qui va payer les prix.
Voilà, nous prenons le dernier tour de table pratiquement. Israël Moussala, jusqu'à Koustema parle des effets collatéraux qu'il faudrait craindre, mais est-ce qu'il faudrait vraiment craindre cela, puisque nous avons par exemple reçu la confirmation du commandant 9e région militaire, le général Jean-Claude Kifa, qui a affirmé que les puissances de la LRA s'étaient déplacées de la RDC vers la Centrafrique.
Oui, mais c'est possible, mais moi je pense comme Richard que Kony est resté longtemps dans notre pays. Donc je crois qu'il connaît mieux notre pays. En Centrafrique, je crois qu'il s'y est rendu récemment. Donc c'est une zone qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas aussi bien que la RDC. Il est resté pendant longtemps. Bon, il se déplace entre 3 ou 4 pays, la RDC, le Soudan, le Sud-Soudan, la Centrafrique et l'Ouganda. Mais moi, ma question, c'est que je c'est vrai, les dégâts collatéraux peuvent être déjà ici, comment dirais-je, craints. Mais moi, je pense que le mal est tellement profond que les effets collatéraux par rapport à l'élimination de Kony sont un détail. Il faut absolument que cet homme Kony soit vraiment mis hors d'état de nuire. Je vois toutes ces familles qui ont été endeuillées, je vois toutes ces atrocités, toutes ces mains coupées, je vois tous ces villages brûlés, enfin, et je vois tous ces enfants dont il a volé l'innocence. Moi, je pense que Joseph Kony n'a pas sa place de liberté, il a sa place dans une cellule au fond de la CPI. Voilà. Donc, la vengeance de Joseph Kony, je le répète encore, moi, c'est trop direct. Donc, et la solution vient des États-Unis d'Amérique, vient de la planète Mars, peu importe. Et qui a fait les résultats, c'est mettre fin à l'aventure des œuvres dans notre pays.
Merci.
Et c'est une leçon pour nous. C'est-à-dire que c'est bon en fait que dans les années à venir, nous avons une armée et une police, des services de renseignement compétents qui pourront faire ce travail plutôt que de nous voir, les étrangers le faire à notre place.
Merci, Israël Moussala, Giscard Koussema. Déjà un mot pour conclure.
Oui, je voudrais ici saluer les lobbyings ougandais qui a conduit aujourd'hui à ce genre d'opération. Je pense que cela devait interpeller la République démocratique du Congo.
Il y a quand même quelque chose, la société civile de Niangara qui avait écrit à Barack Obama et ça a donné la force américaine qui est venue quand même aussi dans la
République. Justement, donc ce genre d'initiative devrait se multiplier et surtout les officiels devraient prendre à bras le corps leur courage, sinon ce serait des accusations de complicité lorsque ce sont des structures privées comme la société civile qui demandent à ces et des forces internationales, alors que côté officiel, que le silence radio, je pense qu'il est temps de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ont fait de la République démocratique du Congo l'Eldorado des criminels.
Néron Kata, un mot pour conclure sur cette question de la LRA.
Oui, je n'ai pas grand-chose à dire, peut-être mes prédécesseurs ont presque tout dit, mais je voudrais tout simplement ajouter là que le peuple aujourd'hui a besoin de la paix pour décoller, pour démarrer. Il faut qu'on se penche à autre chose qu'à la guerre et que la justice puisse faire réellement son travail, mais plutôt je voudrais tout simplement peut-être, si l'occasion est là, demander à nos officiels, à nos gouvernements, que la République démocratique du Congo aussi puisse réellement s'impliquer à cette traque de Joseph Kony.
Merci cher confrère d'avoir participé à cette émission, fin de cette tribune de la presse. Merci à vous chers auditeurs internautes de nous avoir suivis. Samuel Kachak a réalisé cette émission sous la supervision de Ben Kabamba. Willem Lungamba était à la technique. Présentation et coordination, Alain Roumoussinge. Au revoir. I'm going to go to the next one.